La Sexploratrice, une présentation de Planet X. Explorer les zones sensibles, parcourir les fantasmes, découvrir l'aventure et braver la routine pour trouver l'extase. Chez Planet X, on connaît ça. MonPlanetX.com.
What's going on?
Ready, set, and begin.
La Sexploratrice. Avec Mel Trudel et Camille.
Radio X.
Bonsoir, bonsoir et bienvenue ce soir dans La Sexploratrice avec Camille La Pêcheresse.
Salut, salut Mille, Sexploratrice qui aura une émission top chrono assez bien comptée ce soir.
Oui.
Ça va rouler, j'ai même dû couper Christian avant qu'on entre en onde. Faut remercier pour ça tous nos commanditaires, tous nos publicitaires, dont Planet X qui nous sponsorise.
Oui, exactement. Et merci à tous d'être à l'écoute. On est en live sur Facebook, sur mon TikTok, Mélanie la Sexploratrice. Et on est en bonne compagnie ce soir et je vous présente tout de suite nos deux invités. Donc Dakota Fleur, qui est impliquée, qui est une polyamoureuse impliquée,
ouais,
qui offre également des ateliers. C'est de ça dont on va parler tout à l'heure. Mais aussi Jack.
Oui.
Jack qui est avec nous, qui désire rester anonyme.
Tout à fait.
C'est bien correct comme ça, mais on va quand même parler de ta situation parce que c'est relativement nouveau pour toi. Donc, on va parler de tout ça ce soir. Et le but de cette émission, bien, c'est vraiment de décortiquer le polyamour parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent polyamour, libertinage, couple ouvert. C'est un peu... Il y a aussi plein de termes. Des relations non monogames, éthiques, il y a beaucoup, beaucoup de termes, d'étiquettes, de formules, de polycules. Donc, j'aimerais qu'ensemble, on décortique tout ça et on aura peut-être une invitée également un peu plus tard là, par téléphone qui va nous parler de sa situation à elle. Donc, bonjour Dakota.
Bonjour.
Toi, t'offres un atelier qui s'appelle le Polyamour 101?
Oui, le Poly 101, en
okay.
fait, avec Polyamour Ville de Québec. J'ai créé une formation avec une collègue
à moi. Tu peux parler un petit peu plus proche.
Oui, ouais, c'est bon.
C'est correct.
J'ai recréé finalement une formation qui existait déjà avec une amie et une ancienne méta, comme on va parler un peu plus tard. Et pour finalement présenter le polyamour dans d'une façon un peu plus simple qui peut rejoindre les gens, pour les gens qui sont curieux et pour les gens qui souhaitent s'aventurer un petit peu dans ce monde-là.
Oui, le polyamour qui est différent du libertinage. Donc, quand on parle de polyamour, on parle vraiment d'une implication émotionnelle.
En fait, le polyamour, comment je dirais plus, c'est que à la base, c'est de multiples amours. Alors, poly, plusieurs.
Amour.
Amour, exactement. Puis là-dedans, comment les gens y voient ça, ça va vraiment être à eux. L'étiquette, c'est aussi beau que qu'est-ce que les gens en font finalement, là.
Oui, exact. Comme les limites de chacun, finalement.
Exact.
Et le libertinage, par contre, souvent les couples libertins ne sont pas nécessairement polyamoureux.
Exact.
Donc, c'est vraiment plus dans la pratique sexuelle de la chose que de la relation.
Exact. Oui. Dans le libertinage, on parle souvent moins d'amour et on parle souvent plus de désir. Puis des choses comme ça, ça va plus être du domaine de la sexualité. Mais un n'empêche pas l'autre, souvent. Puis
oui,
souvent,
c'est ça.
Il n'y a pas de grosse séparation grâce entre les deux communautés. Les deux communautés se rejoignent quand même. Mais le polyamour s'y éloigne quand même en ayant de multiples relations ou pas de multiples relations, mais plutôt comme une idée qui fait qu'on veut prioriser avoir plusieurs amours dans sa vie.
Oui, exactement. Et on en parlait hors d'onde, c'est possible d'être infidèle dans un couple ouvert.
En effet, à la limite, c'est quasiment plus facile d'être infidèle
oui.
dans un couple ouvert.
Parce qu'à partir du moment où on ne respecte pas les règles établies, des règles qu'on pourrait, en fait, je pense que ça peut être bien aussi de revoir les règles au fil du temps.
Oui, j'aime moins parler de règles.
Okay.
Et j'aime mieux parler d'entente relationnelle.
Oui.
En fait, quand on parle de règles, ça fait comme si notre partenaire nous contrôlait. Mais comme en polyamour, souvent, on parle plutôt... des gens qui viennent ensemble et qui choisissent d'être ensemble.
C'est vrai.
Fait qu'on n'a pas nécessairement de contrôle sur l'autre personne et on le reconnaît. Par contre, puisque l'autre personne nous aime, on s'attend à ce que la personne respecte nos limites. Fait qu'à ce moment-là, c'est une question de communication, des différentes choses, des différents moyens de contrôle qu'on s'entend entre nous à placer finalement dans le couple et les relations.
OK. Et on a Jack qui est avec nous, en fait, qui oui. est relativement nouveau. Est-ce que ça fait longtemps que tu es dans le milieu et quel âge tu as à peu près, juste pour nous donner une idée?
Ben, écoute, l'âge milieu cinquantaine, puis je suis dans le milieu libertin, pas libertin, mais
polyamoureux
depuis le milieu de la cinquantaine.
OK. Es-tu libertin aussi?
Non, pas vraiment. C'est, okay. C'est des termes qui s'entrecroisent chez moi, mais il y a beaucoup le côté émotion, connexion dans le mode de vie en tant que tel.
Oui. Oui. OK. Et est-ce que les polyamoureux, en fait, moi, ma façon de voir les choses, c'est que j'ai compris à un certain moment que l'humain, à la base, n'était pas monogame. Selon moi, en fait, c'est vraiment la société, la religion qui ont décidé qu'il fallait qu'on suive une certaine forme de mode de vie, finalement, pour procréer, pour, tu sais, au fil du temps. Mais aujourd'hui, on a la liberté quand même, on peut faire le choix d'être...
Mais il y a une affaire intéressante par rapport à l'historique de la non-monogamie. Il y a plusieurs populations qui étaient à leur base non-monogames, mais pas dans le sens qu'ils encourageaient d'avoir plusieurs relations, mais plus dans le sens qu'ils encourageaient chaque personne à explorer ce qui leur faisait plaisir.
Oui.
On peut penser à certaines communautés autochtones ou africaines, dont je ne peux pas vraiment me prononcer là-dessus, je ne suis pas une experte, mais comme c'était vraiment plus dans l'exploration de soi et le fait que comme, les gens sont en communauté puis ils font ce qu'ils leur souhaitent puis qu'est-ce qui les rend heureux. Mais le polyamour actuel n'est pas nécessairement en lien avec ces choses-là, mais les personnes polyamoureuses un peu plus critiques vont essayer de s'inscrire dans un polyamour qui reconnaît le fait que cette non-monogamie-là existait puis qu'elle a été mise de l'écart par la colonisation,
exact.
Par les instituts racistes puis des choses comme ça.
Parce que souvent, ce qu'on entend parler, que ce soit de la mythologie ou le temps des Égyptiens, l'Égypte antique, là, les parties pouvaient être à plusieurs. Là,
ben, oui, on pense à la Rome antique.
Ouais.
La Rome antique, l'éducation se passait via l'amour. Il y avait les différents types d'amour en philosophie grecque.
Ouais.
Puis les différents types d'amour, c'est quelque chose que, à la limite, je trouve relevant encore maintenant. C'est qu'on peut réfléchir à... On aime nos amis différemment de on aime nos amants. Mm. On aime notre famille différemment aussi.
Ouais.
Puis à la limite, le polyamour peut permettre de mettre ces amours-là sur une pied d'égalité.
Absolument.
Et prioriser les relations qui nous font du bien.
Oui, c'est ça. Puis d'être dans la compassion aussi pour notre partenaire. La compassion étant d'être heureux pour notre partenaire qui vit du bonheur.
Pas juste pour les partenaires. La compassion, souvent les gens vont parler de partenaire, mais c'est être content pour son ami qui a une promotion.
Oui,
ça n'a pas rapport
vrai,
avec
c'est
nous.
Vrai.
Être content
c'est
pour...
l'inverse de la jalousie finalement.
Ben non plus.
Non?
Non plus. La compassion, c'est une émotion en soi d'être content pour quelqu'un d'autre de façon indépendante à soi.
Ah, OK.
La jalousie, j'aime plus parler du fait que c'est une émotion complexe, la jalousie. Mm. Puis j'aime bien commencer pendant la formation que c'est une émotion neutre. C'est pas une mauvaise émotion, la jalousie. Mais c'est quelque chose qui est composé de tristesse, de colère, de déception, d'incompréhension. Puis ça peut autant avoir des sources naturelles internes par rapport aux traumas, aux insécurités... Mais aussi, est-ce que j'ai bien mangé? Est-ce que j'ai bu? Est-ce que j'ai assez dormi? Qui peuvent faire venir puis bouillonner ces émotions-là à l'intérieur de soi. Mais aussi, est-ce que mon partenaire a diminué la quantité de temps qu'il passe avec moi? Est-ce qu'il y a une nouvelle relation? Puis là, il est vraiment en nouvelle relation, énergie avec l'autre personne.
Oui, là, tu m'emmènes à quelque part deux choses. Tout à l'heure, tu as mentionné le nom méta.
Oui.
Méta qui veut dire?
Méta, en gros, ça veut dire l'amour de l'autre amour, de l'amour.
C'est ça, ouais, les gens qui sont en amour avec le concept, ça s'appelle des méta.
Non.
Non, c'est le partenaire de l'autre
exactement.
Personne.
Exactement. C'est la blonde de ton chum ou la blonde de ta blonde.
Okay.
Il y a des gens qui aiment dire belle blonde
ou
le babe des
babes. Si toi, tu avais un amoureux qui avait une autre blonde, ce serait ta méta.
Ah, ou une méta.
Donc,
okay.
Et je voyais dans le groupe Polyamour Ville de Québec, un groupe que j'ai découvert et que j'adore... J'apprends tellement de choses sur ce groupe-là, c'est incroyable. Et la communauté est tellement... Oh, vous êtes des personnes extraordinaires, vraiment, bravo. Vous faites même des activités. J'ai vu qu'il y a des polygrimpes. Moi, je fais de l'escalade en plus et tout ça, j'adore ça. Mais j'ai rejoint ce groupe-là parce que j'ai quand même tenté, moi, à trois reprises, de vivre une relation polyamoureuse. Mais je ne sais pas si c'est pour les bonnes raisons ou si... En fait, moi, j'ai aucun problème, j'imagine qu'il y a plusieurs personnes, tu sais, à... aimer plusieurs personnes et être heureuse pour l'autre personne qui aime l'autre personne, vraiment, tu sais. Oui. Mais chaque fois, j'ai quand même vécu une déception, une forme d'infidélité à la formule qu'on s'était mise, c'est-à-dire des cachotteries. Si le deal, c'est on se dit qu'on voit quelqu'un d'autre, si on se pose des questions, on se répond, on est honnête, évidemment, on se protège. Oui. Ça, c'est la règle numéro un.
Oui, tout à fait.
Mais dans tous les cas, l'autre personne m'a avoué, je l'ai découvert. Puis moi, je sais pas, là, les filles, là, vous autres, mais moi, quand j'ai un feeling en dedans, qu'on me ment, souvent, mais en fait, tout le temps, jusqu'ici, j'ai eu raison.
Donc, je questionne. Pas pire côté féminin aussi, parce que ça m'arrive.
Oui, c'est vrai.
C'est notre instinct.
Mais c'est ça. Puis finalement, on m'avoue que finalement, les trois personnes, c'est la même chose qui est arrivée, ils n'osaient pas m'en parler, parce qu'en m'en parlant, ils disaient que ça allait me donner encore plus envie, plus souvent, ou peu importe, de voir une autre personne, et eux avaient de la difficulté à gérer ça. Donc, pour eux, c'était parfait, mais pour moi, c'était pas envisageable. Pour eux, ils avaient beaucoup de difficultés à m'imaginer me partager, finalement.
Ouais. C'est drôle que tu dises ça, là.
Ouais.
Genre, moi, je suis polyamoureuse depuis toujours.
Oui?
Moi, j'étais toute
petite. Et t'es toute jeune, hein? T'as 23 ans, mais quand même.
J'ai 23 ans, mais comme, mettons, j'avais 8 ans, là. Moi, je disais que j'allais avoir une femme et des amants.
Wow!
Non, c'est ça. Fait que, genre, j'ai toujours eu dans l'idée que moi, je voulais avoir de multiples amoureux, puis de multiples amis, puis de multiples plein d'affaires. Je voulais juste être remplie et entourée d'amour partout. Puis, ben, quand j'étais au secondaire, puis que je voulais avoir un chum, ou plusieurs, ou une blonde, ou tout ça, ben, je savais pas de quoi je parlais. Hein. Fait que j'ai approché mon chum, puis j'étais comme, j'aimerais ça qu'on soit plus, puis qu'on puisse être. Faire explorer d'autres choses. J'avais pas les mots pour, mais j'y avais parlé, puis on s'était entendu. Puis justement, comme c'était très... La situation, c'est que finalement, ça s'est fini, qu'il était comme... Il était pas à l'aise avec le fait que moi, je puisse faire qu'est-ce que lui, il faisait.
Mais c'est souvent ça!
Ouais.
Mais le truc, c'est qu'il me l'a dit, puis là, il était comme, je suis vraiment désolée. Je pensais que j'allais être capable. Mais je t'imagine avec quelqu'un d'autre, puis ça me fait mal. Puis... Ben, comme c'est correct. Moi, je me suis rendu compte à ce moment-là que l'exclusivité émotionnelle, c'était pas quelque chose pour moi. J'avais besoin de pouvoir aimer les gens. Et ben, lui, il s'est rendu compte qu'il était monogame. Puis ben, on s'est séparés. Puis il y a eu un petit peu de déception, mais comme finalement, on s'en est parlé. Puis
est-ce qu'il est, par exemple, monogame avec peut-être un petit côté? T'es infidèle ou
non?
Parce que moi dans mes moi j'ai toujours été monogame, mais j'ai eu des relations où il y avait des cachotteries. Et c'est là où moi je préfère le savoir, puis je suis très ouverte, donc parle-moi-en, puis mais ils étaient pas capables.
Mais l'infidélité en polyamour est pas mieux bienvenue en polyamour qu'elle l'est en monogamie. Quelqu'un qui, son historique, c'est être constamment infidèle dans les relations monogames. En gros, souvent, ça démontre quelqu'un qui n'était pas capable de communiquer avec ses partenaires, puis de dire réellement ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il avait besoin. Puis ça, c'est un gros red flag, même en polyamour. Quelqu'un qui est un infidèle à répétition.
Bien, souvent, chronique. C'est quelqu'un qui est accro à l'effet d'oxytocine et l'effet euphorisant. La NRE, justement, j'aimerais qu'on en parle.
Mais il y a aussi le fait que, comme quelqu'un qui est à l'aise avec briser les limites de plusieurs personnes, un à la suite de l'autre, c'est quelqu'un qui...
Qui est égocentrique.
Mais pas nécessairement, mais comme qui réalise pas nécessairement que ses actions ont un impact sur d'autres personnes, au-delà, finalement, de ses propres désirs. Puis bien, ça prend beaucoup de maturité, ça prend beaucoup de responsabilisation de s'asseoir dans cette énergie-là, puis... De se sentir mal, puis de réfléchir et de déconstruire ça, finalement. Puis, ben c'est pas le polyamour qui va régler leurs problèmes.
Non. Comme les couples qui voudraient ouvrir leur couple, que ce soit un couple qui souhaite devenir un couple libertin pour pratiquer l'échangisme ou le voyeurisme ou le n'importe quoi, tous les ismes qui existent dans le libertinage, ou un couple qui souhaite devenir polyamoureux, si le couple, à la base, n'est pas fort...
Mais ça aidera pas, là.
Mais non.
Puis, comme, à la limite, je conseille même pas de s'aventurer ça en couple. Parce que le polyamour, c'est pas une affaire à faire à deux, pas une affaire à faire à trois. C'est une affaire à faire seule.
On a tendance à penser le contraire, puis je suis contente qu'on déconstruise ce mythe-là. En réalité, quand on dit « faut que ton couple soit solide pour après ça », non, c'est un mode de vie que tu choisis à la base. Là. C'est, tu es ça ou pas.
Ben, je pense qu'on peut le devenir. En fait, c'est peut-être vrai, on l'est ou on l'est pas, mais de l'instaurer dans notre quotidien, finalement, c'est une autre game.
Je pense que à quelque part, on réalise qu'on l'est.
Ouais,
effectivement.
On l'a peut-être toujours été et on réalisait pas qu'on l'était.
On n'était peut-être pas avec les bonnes personnes pour le vivre.
Et voilà.
Finalement.
Et puis, à un moment donné, on peut tomber sur des gens qu'on aime tellement qu'on va se dire, ben, je vais arrêter parce que, bon, je fais une parenthèse au milieu de ma parenthèse. J'ai exercé pendant plusieurs années un métier qui me demandait de voyager beaucoup.
OK.
Et pour faire une analogie un peu... quand on voit des pancartes « Attention à notre enfant, ça pourrait être le vôtre », pour moi, ça prend une toute autre signification. C'est mauvaise blague, mais bon. Et ça a fait en sorte que bon, j'ai été ce gars-là qui n'était pas bien dans ses relations, qui trompait sa blonde. Et j'ai aussi été le gars qui était capable d'être longtemps en relation avec une personne parce que, ne sachant pas, n'ayant pas de mots à mettre sur comment je me sentais par rapport à... pas juste à la sexualité, là, mais aux sentiments, aux émotions, aux sentiments d'amour qui peut être pluriel.
Mm-hmm.
Étant donné que je n'avais pas de mots à mettre là-dessus...
L'amour au pluriel, c'est bon. C'est
ça. Merci. J'ai pas de copyright. mais bref, ce que ça faisait, c'est qu'à un moment donné, tu arrives, tu rencontres une personne, tu réalises que tu l'aimes tellement que tu te dis, cette personne-là est monogame, je suis game d'être monogame avec cette personne-là. Parce que je veux bâtir quelque chose avec.
Ben, tu respectes ses limites.
Exactement.
Je tiens à dire aussi qu'il y a des gens qui sont en couple avec des personnes monogames. Il y a des personnes polyamoureuses qui sont en couple avec des personnes monogames. Puis il y a des personnes monogames qui sont très heureux dans ces arrangements.
Mais oui!
Ouais, mettons quelqu'un qui aime ça, ses petites affaires, qui n'aime pas ça se faire gosser, puis qui n'aime pas ça passer plein de temps avec son partenaire. Ça lui fait full plaisir que l'autre personne aille remplir ses besoins ailleurs.
Exactement. Parce qu'un seul et unique humain ne peut pas combler tous nos besoins. Mm-hmm. C'est rare, en tout cas, là. Tu sais, des couples qui réussissent à combler tous les besoins de l'autre, c'est très, très rare.
Ouais.
Et c'est là où un couple monogame peut se dire, « Regarde, nous, on fait cette concession. On fait cette concession-là. Ensemble, on va assumer qu'on ne comble pas les besoins de l'autre, mais on est monogame. » Tu sais, puis ils sont bien comme ça. Alors que d'autres, ben moi, c'est les formules que je proposais, c'est, écoute, j'aime tel type de pratique ou peu importe, donc...
Et même au-delà du couple. Genre, là, on parle beaucoup, mettons, du couple qui s'ouvre ou des couples comme ça, mais moi, j'aime bien éclater le couple. On sort du couple au complet, puis on voit le fait qu'on reconnaît notre partenaire comme un individu à lui tout seul, qui a des besoins, qui a des envies, et... on veut que cette personne-là soit heureuse.
Exact.
Mais on veut aussi être heureux.
Oui. On veut que ce soit notre plus un.
C'est ça.
Puis le laisser vivre.
C'est ça. Puis comme il y a aussi le fait que comme on n'est pas obligé d'avoir, mettons... Là, on parle souvent d'une situation où comme on a un partenaire principal ou un partenaire avec qui on habite.
Oui.
Ou ce genre de choses-là. Mais les relations polyamoureuses, ça permet de déconstruire ça, finalement. On n'est pas obligé de rentrer... dans, finalement, quelque chose qu'on appelle finalement l'escalier relationnel.
Oui.
Où ça, c'est, on commence à se dater, puis après ça, on est en couple, puis après ça, on déménage ensemble, on se marie, on a des enfants. On n'est pas obligé de suivre cet escalier-là, puis c'est pas obligé d'être ça le but pour tout le monde.
Exact.
Ouais.
Ouais.
Puis on peut avoir des enfants avec un, puis se marier avec l'autre.
Oui, c'est ça. C'est vraiment... J'ai, dans le cadre du magazine Summum, j'ai écrit pour le magazine et j'ai interrogé une femme, justement, qui, elle, était polyamoureuse, mais en couple avec son mari et polyamoureuse avec le frère de celui-ci.
Ouh! Mais, c'est spicy,
mais tout
ça!
Le monde, vraiment, tout le monde doit avoir un genre. Bien là-dedans. Ça fait bientôt 10 ans. Tout le monde est bien là-dedans. Ça, c'est très particulier, mais...
Faudrait que tu rajoutes quasiment que son jumeau, là. Tu sais,
ouais,
que
ça non,
passe...
Ouais,
wow!
Je pense que ça existe.
Elle avait accepté de témoigner. J'étais très étonnée de cette histoire-là, mais eux, c'est leur... Ils sont bien comme ça. Tu sais, dans le fond, dans la vie, là, la vie est assez courte. Là, on peut-tu juste être heureux puis trouver la formule qui nous convient? Peu importe la formule, tant que ça fait pas de mal à personne, je veux dire.
Ça, ces gars-là, ils se sont fait dire par leurs parents que c'était important de partager.
Oui!
J'adore le gag, il est parfait. Je pose la question à 1 million de dollars, autant dans une relation qu'on va dire plus conventionnel, accepté par la société d'être monogame. C'est difficile de le trouver, c'est difficile d'être en relation avec un autre humain, mais j'ai l'impression que c'est plus difficile pour un polyamoureux de trouver combinaison gagnante. Quelqu'un qui, on en a parlé tantôt, je ne sais pas si Dakota, tu as une statistique, les gens qui laissaient le polyamour puis qui se rendent compte qu'ils ne sont pas capables puis que ça atteint leurs limites. C'est difficile de trouver quelqu'un?
Je pense que, si je ne me rappelle pas la statistique exacte, là, mais il y a un tiers des gens qui essaient d'avoir une relation non monogame à un moment donné dans leur vie.
OK. C'est beaucoup?
Oui, c'est quand même beaucoup. Je suis étonnée, oui.
Il y a un tiers des personnes qui essaient à un moment donné. Puis que ça ne fonctionne pas ou que ça fonctionne. Puis il y a beaucoup de personnes qui se font brûler par les relations non monogames. Mais comme, mettons, là, moi j'ai... Je ne sais pas combien de relations vous avez eues dans votre vie qui étaient monogames ou pas.
Eh hey boy! Genre, pas tant que ça.
Mettons
5 total.
Mettons 5 total. Genre, que ce soit monogame ou pas, vous n'êtes plus en couple avec ces gens-là.
Non, c'est ça. Mais ça, c'est vrai. Tu sais ce qu'ils disent? Ouais, mais les couples ouverts, ça marche pas. Y a
ouais, mais les relations monogames non
plus. Les relations monogames aussi. Ouais, mais dans le temps, nos grands-parents... Nos grands-parents, dans le temps, étaient obligés de rester ensemble.
Surtout les femmes.
Ben oui.
Ben, voyons.
Madame, même si elle voulait partir, là, elle pouvait pas. Elle était prisonnière de sa maison, tu sais. Donc, on peut même pas comparer, là. C'est vraiment la société et la religion, là. Moi, j'en reviens là-dessus. C'est vraiment ça qui nous a mis la pression de dire, hey, dans la vie, il faut être en couple, à deux, sous le même toit, puis... Là, j'aimerais vraiment qu'on parle de la NRE, donc la New Relationship Energy, qui est l'espèce de sentiment euphorisant là, qu'on vit tous quand on rencontre quelqu'un. Il y a des gens qui sont même accros à cet effet-là.
Ce qu'on appelle la lune de miel, là, le moment euphorisant.
Exact. Comment on arrive à gérer ça? Parce que sur le groupe polyamour, c'est là où j'ai appris le terme, finalement. Et je sais que c'est quand même difficile pour le partenaire de vivre cette période-là, de voir son partenaire vivre cette période-là, mais en étant dans la compassion toujours et tout, on se dit, bon, regarde, ça va être éphémère, ça va redescendre à un moment donné, mais comment on peut arriver à bien gérer cette...
La NRE, il faut qu'on se rappelle que c'est hormonal.
Oui.
C'est chimique.
Absolument.
Puis, ben, genre, il y a au moins la moitié de la population qui, sur un mois, a une grosse variation hormonale, puis ils sont quand même capables de fonctionner. Fait que c'est comme, il y a le cycle menstruel. C'est ça,
mais
ça varie.
Mais aussi ont un cycle
Oui, ils ont
hormonal.
Un cycle, mais je pense que c'est sur 24 heures.
Oui, effectivement.
Sans chanceux.
Ouais, mais c'est quand même...
Moi, j'aime quand même ça, ma phase folliculaire où je sens que je peux conquérir le monde. Les hommes, ils n'ont pas ça.
C'est vrai.
Moi,
les rendez-vous importants, messieurs, soyez au courant du cycle menstruel de vos conjointes. Même chose, mesdames, envers vos blondes ou whatever. Moi, mes rendez-vous importants, je vais voir si je peux choisir. Là. Idéalement, je les place dans cette semaine-là, la semaine pré-menstruelle. Non, pas la semaine pré-menstruelle, c'est la semaine... C'est 14 jours après, dans le fond?
Mais c'est comme pré-ovulation.
C'est
le
même moment.
Oui, c'est ça, juste avant l'ovulation, c'est ça, exactement. Hey, là, on
est en feu, là. Tu mets du Beyoncé, là, en background, puis t'as l'impression, c'est ça, que t'es la, on top
vraiment.
Of the world, c'est vrai.
Oui, mais ça, je suis persuadée que... Si des couples, des troupes ou des peu importe, étaient conscients du cycle menstruel de leur partenaire, il y aurait moins de chicanes et de séparations, peut-être.
Ben, ouais. Ben, c'est drôle parce que comme il y a le mythe que les femmes finissent par se synchroniser. Là.
Oui, mais
j'ai
ça,
déjà
vrai.
Été en relation, puis tous mes métas, on avait nos règles en même temps.
Wow!
Puis on se voyait même pas. C'est juste que
c'est hormonal, c'est vraiment c'est un drôle de phénomène.
Je sais pas
si ça travaille ensemble.
Ouais.
Donc,
c'est ça. Par rapport à la NRE, mettons qu'on retourne là-dessus, c'est ça, c'est hormonal, c'est l'ocytocine, c'est plein d'affaires. Puis aussi le fait qu'en nouvelle relation, là, on baise un peu plus.
Oui,
oui. Fait que ça peut aussi contribuer à ce sentiment d'ocytocine puis de connexion, puis on a l'impression comme « Ah, wow! » Mais la façon que c'est géré, c'est que comme il y a la NRE, mais il y a aussi le ERE.
Oh.
Le ERE, c'est le sentiment de sécurité. Et le confort avec un partenaire. Souvent, ça arrive après, genre, 2 ans. Après la NRE, finalement, il y a le ERE.
Là, c'est là où l'affection, en fait, c'est la passion qui se transforme en affection et c'est là que la relation amoureuse évolue.
Oui. À la limite, moi, j'attends le ERE à chacune de mes relations. Moi, je trouve que c'est là que l'aventure commence. Parce que le truc, c'est qu'il y a beaucoup de personnes avec qui on rentre en relation qui, après le NRE, ils n'ont plus grand-chose à offrir. Ils ne sont plus très intéressants. Fait que, passer la lune de miel... m'ont passé à d'autres choses aussi. Alors que, mettons, la relation qui est stable, avec qui je suis confortable, la personne m'a vue dans tous mes états, puis m'aime pour qui je suis, tant le mauvais que le bon, ben cette personne-là, c'est quelqu'un qui est précieux. Là.
Ouais, gardez-les, ces gens-là.
Vraiment.
Ouais.
Il y a des gens, les gens infidèles souvent sont accros à cet effet-là.
Ouais.
C'est des gens qui le revivent. Parce que c'est ça, c'est entre un an et demi et trois ans où ça s'estompe en général?
En fait, ça passe de quelques semaines, quelques mois, ou ça peut c'est maximum 2 ans.
OK.
C'est maximum 2 ans. Oui. Puis ça dépend de la fréquence, à quel point on voit la personne. Puis tout ça, si on voit la personne plus souvent, ça va s'estomper plus vite. Puis il y a le truc, c'est que ça ne s'estompe pas nécessairement en même temps. Il y a des gens qui vont avoir fini, oui.
Bien. Il y a quelque chose que je veux pointer aussi, c'est que le NRE ne sera pas nécessairement seulement qu'en relation amoureuse.
Mm-hmm.
Tu sais, tu peux avoir ça avec une nouvelle job, tu peux avoir ça avec un nouveau hobby que tu commences à pratiquer.
Ouais.
Et tu sais, personnellement, moi, en ce moment, je suis en NRE avec le groupe Facebook et le concept de la Ville de Québec, le polyamour à Québec, le milieu.
Okay.
Parce que c'est nouveau pour moi, ça met des mots sur quelque chose que j'ai vécu dans ma vie. Je me sens compris, je rencontre des gens qui sont qui ont la même façon de penser.
C'est très inclusif aussi ce groupe-là, puis je trouve ça le fun parce qu'il y a beaucoup de gens qui partagent des inquiétudes, ou justement, c'est là que j'ai vu une dame là, qui partageait son malaise par rapport à son partenaire qui vivait justement, qui était en période de NRE, puis elle ne savait pas comment gérer ça. Elle trouvait ça difficile pour elle.
Tout à fait.
Oui.
Tout à fait. Puis justement, une autre chose que je veux pointer, c'est que la compersion et la jalousie ne sont pas mutuellement exclusifs. Tu peux vivre les deux en même temps. Ou c'est, tu sais, tu peux être jaloux puis être content. Tu peux... C'est ça, les deux... Tu sais, c'est pas parce que tu as appris c'était quoi la compersion dans la vie que tu ne seras plus jamais, jamais, jamais jaloux.
Il y a des gens qui ne sont pas capables de vivre la compersion. Ils ne savaient pas que ces gens-là sont moins capables d'être polyamoureux. Comme la compersion, ça ne vient pas à tout le monde. Il y a des gens qui s'en foutent que leur ami ait eu une promotion. Ils vont mettre un sourire parce que c'est ce qu'il faut, mais dans les faits, ça leur approche pas grand-chose.
Mais si on n'est pas capable de vivre la compersion, est-ce qu'on peut vraiment être polyamoureux?
Oui, bien sûr. C'est vraiment une question... parce que la compersion n'est pas nécessaire. Parce que il suffit finalement d'avoir une neutralité puis un respect de l'autonomie de l'autre personne.
Ah, OK, on n'est pas obligé d'être content. On peut laisser notre partenaire vivre ce qu'il a à vivre sans que ça vienne nous rendre heureux.
Ouais, ça peut couler comme sur le dos d'un canard, là. C'est ça, en fait, la compression, ce que je comprends, c'est ça.
Hey, je viens de comprendre ce que ça veut dire.
Genre, mon Dieu. moi, j'en vis pas tant que ça, de la compersion.
Ah ouais?
Moi, il y a certaines émotions
dans le vivre et laisser vivre, maintenant.
Moi, à moins que l'autre partenaire, je l'apprécie, je m'en contrefous, là. Je veux tellement pas le savoir. C'est comme, genre, je veux savoir où la personne est un petit peu. Genre, qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine? Je veux que la personne me le dise, mais genre...
Tu veux pas un journal de bord détaillé non
plus. C'est ça. Puis à la limite, est-ce que l'autre personne consent à avoir un journal de bord détaillé? Comme, les relations de mes partenaires, c'est pas mon porno écrit.
On va parler de ça.
Ouais,
wow. C'est très bon. C'est excellent. Et j'aimerais qu'on parle de ça et du don't ask.
Oui.
Don't tell après la pause.
Si vous avez des questions, 88-670-9098. Il y en a déjà une que j'ai stand-by, mais n'hésitez pas. C'est un univers relativement nouveau. Nouveau aussi sur les ondes, de médias traditionnels. Donc, on continue la discussion après la pause.
Merci d'être là.
La sexploratrice avec Mel Trudel et Camille.
Radio.
Donc, on parlait avant la pause des différentes formules, mais juste avant, on va aller du côté de notre invité, Jack.
Oui.
Peut-être que tu pourrais nous raconter ton aventure vers le polyamour, finalement, ou
Mon cheminement, dans le fond.
Ton cheminement, oui, exactement. Oui.
Ben écoute, comme je disais tantôt, j'exerçais un métier où est-ce que je me promenais pas mal partout, surtout dans la province de Québec. Et même avant ça, j'ai réalisé que je développais des sentiments, des fois relativement forts, en dehors de mes relations de couple avec d'autres personnes. Et là, à un moment donné, ça devient presque envahissant, tu sais, parce que...
Mais est-ce que c'était éphémère ou c'était un sentiment où là, tu avais vraiment envie d'apprendre à connaître la personne et développer une relation avec cette personne-là?
Il y avait un peu des deux.
Okay,
très honnêtement, il y avait comme des fois de l'attirance physique seulement, puis tout ça. Puis d'autres fois, ben là, t'arrives, puis tu t'imagines en couple un peu avec cette personne-là, ou ben donc, comment ça serait les choses...
sexuellement.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Alors que tu aimes encore ta conjointe pendant ce temps-là.
Oui.
OK.
Oui. Et à un moment donné, j'ai vécu, avant de connaître le terme polyamour, j'ai vécu des relations où est-ce que, ben, on se disait, ah oui, c'est correct, et ça n'avait jamais bien viré, parce que c'était pas sincère, et je crois que la personne, à ce moment-là, avait un petit, ouais, non, je vais trouver un moyen de le changer, de le garder, de faire en sorte qu'il n'aille pas ailleurs.
C'est juste une passe,
et, ouais, exactement. Et c'est ça, à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que j'avais un type de relation comme ça avec une fille, et je lui parle à un moment donné, ça fait 2-3 jours qu'on ne s'est pas vu, puis là, je lui dis, ah, j'ai revu telle autre personne qui était une ex-fréquentation, dirons-nous, et elle m'a demandé, avez-vous baisé? Je fais « oui ».
OK.
Puis là, silence de pas de cathédrale parce qu'il y a de l'écho, là. Il n'y a rien, là. Puis à un moment donné, je fais comme « OK, tu ne parles plus. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, là? Qu'est-ce... » Puis je lui demande carrément « à quoi tu penses en ce moment? » Ben, elle me dit « je pense que tu es un Christ de chien sale. »
Oh!
Oh! OK.
Et là, ça a fait « oh my God, OK. » Bon, j'avais mal...
analyser.
Ouais, ben c'est ça. Dans le fond,
les limites.
Oui. Dans le fond, il y avait le je m'étais pas fait dire la bonne chose parce que dans le fond, au début, on avait dit oui, c'est correct.
On a eu un problème
si tu vois
de
quelqu'un, exactement. Si tu vois quelqu'un, c'est correct. Si je vois quelqu'un, c'est correct. Ça va bien. Ça s'est avéré pas être ça. Et puis, depuis que je comprends le concept polyamoureux, je comprends aussi le fait que différentes personnes peuvent remplir différents désirs, besoins.
Oui. Comme nos amis. On a un ami avec qui on va danser, un autre avec qui on va faire d'escalade. Non, c'est la même chose en amour.
Puis là, tu te dis, OK, mettons que je suis en couple avec... parce qu'il y a des gens aromantiques, il y a des gens asexuels, il y a des...
Des gens qui aiment le sexe kinky, le BDSM,
oui,
ces choses-là.
Exactement, exactement. Puis mettons là, que la personne avec qui tu es en couple ou ben, donc, que tu fréquentes beaucoup a une de ces facettes-là qu'elle n'a pas. Et toi, tu as besoin de la combler. Mettons que c'est pas un câlineux.
Ouais.
Ben là, tu peux vivre une relation avec cette personne-là et dire j'ai ce qu'ils appellent en anglais un cuddle buddy, puis que là, j'invente le terme s'il existe, tant mieux.
Il y a le langage amoureux qui existe.
Oui, oui. Mais le terme auquel j'ai pensé, c'est copain câlin.
Oui.
Tu sais, que tu vas aller vers quelqu'un juste pour être.
Un ami de corps.
Tu sais. Ouais. Netflix and chill, oui. Mais sans le sexe après, oui. le vrai Netflix and chill, dans le fond. T'sais.
Mais au Japon, ça existe, des cafés câlins.
Oui.
Tu vas juste chercher l'affection dont tu as besoin, puis tu retournes chez toi après.
Et là, ce ne sera pas une question de polyamour. Ça va être juste, tu remplis ce besoin-là, tu retournes à la maison. Mais quoi de mieux que de le faire avec quelqu'un pour qui tu as réellement des sentiments? Et ça n'enlève en rien les sentiments que tu as pour la personne avec qui tu partages ta vie. En général.
L'événement que tu nous as raconté, est-ce que ça a été ta première tentative dans le monde polyamoureux? Est-ce que c'est...
Non, ça n'a pas été la première tentative. Et justement, la personne avec qui j'avais été cette fameuse fin de semaine-là, c'était une autre personne avec qui j'avais tenté de développer une relation polyamoureuse. Et elle, à ce moment-là, c'était une façon, elle aussi, d'essayer de me ramener vers elle.
Ah... Oh.
Et ça a été... là, justement, on parlait de déception dans le... c'est pas parce que t'es polyamoureux qu'il y aura jamais de déception.
Mais non.
T'sais? Et moi, ça a été une double déception d'un coup sec.
Mm-hmm.
Peut-être pas au même moment, sauf que de me rendre compte que cet événement-là, cette fin de semaine-là, a déclenché toutes ces malaises-là de part et d'autre et des blessures sentimentales. Là.
Oui.
Pas juste des blessures d'orgueil, des blessures
parfois,
sentimentales.
Parfois, ça peut même activer d'anciennes blessures.
Exactement. Ou... Oui. Exactement.
Exact. Comme on parle souvent des femmes qui ont été trompées ou de la personne qui a été trompée, puis tout ça, mais dans cette situation-là, ces femmes-là n'ont pas été trompées. Elles ont dit oui, elles n'ont pas dit la vérité, finalement. Non, oui. C'est comme, mettons, il y a eu les discussions sur le consentement. Le consentement, c'est quelque chose qui peut changer dans le temps. Les gens en parlent, puis tout ça. Mais comme, la personne ne peut pas deviner qu'est-ce que tu penses.
Exactement.
Puis, Ben, y a un terme en polyamour, des personnes qui s'engagent avec des personnes polyamoureuses ou non monogames, puis ils essaient de les rendre monogames. On appelle ça un cowboy.
Ah ouais? Ouais.
C'est quelqu'un qui lance son lasso sur quelqu'un de polyamoureux, puis que finalement l'isole et qui sait que la personne est polyamoureuse, mais comme la personne va tellement m'aimer moi qu'elle aura besoin de personne d'autre. Oh. Fait qu'au fur et à mesure, la personne va être genre, ah, oh, mais comme, cette relation-là, est-ce qu'elle te sert vraiment? Mm. Puis elle va prendre de plus en plus de son temps, de plus en plus de son énergie.
La manipulation.
Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. La personne, ouais. Genre, elle fait juste tirer la personne polyamoureuse envers elle avec finalement comme des cacheteries et des menteries. Puis c'est pas respecté finalement l'entente qui a été mise auparavant.
Ouais.
Puis c'est une tristesse que beaucoup de personnes polyamoureuses ont.
Y a-tu un... Puis la question est sur notre live en ce moment, Natacha la pose. Y a-tu un préjugé défavorable pour les hommes versus les femmes? Tu sais, de faire paraître le gars, je vais prendre l'expression qu'elle a utilisée, pour un player d'être polyamoureux?
Oui. Ben, je dis oui dans le sens de ce que tu viens de dire, pas nécessairement dans le sens que...
C'était l'expérience qui a répondu de façon assez expéditive. C'est mon feeling.
Je crois, c'est fort possible. Écoute, je pense que c'est aussi dans l'inconscient collectif de comment la société patriarcale a été drillée que le gars, justement, est un player, c'est cool.
Ouais, il y a le succès pour ça.
La fille, ben, c'est moins bien vu.
Ouais, les hommes sont célébrés, là, quand ils sont polyamoureux.
Oui.
Il y a une célébration, finalement, de l'homme qui a plusieurs blondes.
Oui. On parle de dans le milieu polyamoureux. Mais de
l'extérieur. Non, pas juste du milieu polyamoureux. Il y a comme, mettons au niveau des personnes plus jeunes, comme un gars qui a plusieurs blondes, c'est un player, c'est un hot, il est désirable. Comme avoir plusieurs partenaires, ça augmente sa virilité.
Ouais.
Alors qu'une femme qui a plusieurs partenaires, c'est pas bien.
Elle est. Oui, effectivement. Ouais.
Il y a comme le mal vu de l'homme, certes, mais comme. Mettons que je prends une situation que je vois plusieurs. Là. Un couple qui s'ouvre où ils vont de chacun de leur côté. Les femmes ont tendance beaucoup plus de succès sur les sites de rencontres que les hommes parce que les sites de rencontres sont très favorisés pour les femmes. Fait que l'homme...
Ça dépend desquels.
Oui, c'est ça, ça dépend desquels.
Oui, oui. Mais genre, mettons, l'homme est pas... de Olé, de Gossiou.
Olé et Gossiou.
Mais c'est ça, mais mettons genre...
Mais oui, effectivement.
Fait que les femmes, elles peuvent enchaîner le choix. Les dates.
Il y a même des applications où elles ont le choix et doivent...
Ouais, c'est
elles qui décident si oui ou non il y aura un...
Oui, c'est ça. Alors que les hommes, des fois, leurs options sont un peu plus minces.
Oui, effectivement.
Il y en a qui développent finalement de l'insécurité par rapport à ça parce qu'eux autres, ils pognent pas. Mm. Ils pensaient qu'ils allaient se lancer là-dedans puis qu'ils allaient être des full hot, alors que finalement, c'est leur blonde qui pogne.
Ben, c'est un petit peu là où je voulais en venir tantôt. C'est que le préjugé envers les gars, c'est que souvent... Tu sais, moi, j'ai l'âge que j'ai, là, OK? On se mentira pas. Et ça peut être perçu comme... OK, check le... Ben, je vais utiliser le terme que je pense pas être rendu là, mais bon, check le petit vieux qui s'en va essayer de se pogner des petites jeunes.
Ah ouais.
De l'extérieur, tu sais, que les gens vont voir ça comme ça au niveau du polyamour, mais... les femmes, ben, dans l'inconscient collectif, justement, comme je disais tantôt, de la façon qu'on a été drillé avec le patriarcat, la bisexualité chez la femme est beaucoup plus acceptée, que chez l'homme.
Oui, effectivement.
Et, c'est un marketing.
Oui, tout à fait. Et là, ben, tu tombes dans une situation, justement, où est-ce que c'est pas juste une question de bisexualité, mais c'est une question de OK, le gars, il ment pour être avoir accès à beaucoup de femmes, mais dans le fond, tout ce qu'il veut, c'est de la diversité, puis d'avoir, OK, c'est le free-for-all, puis le buffet, là.
C'est une façon détournée, comme ceux qui songent à ce mode de vie-là parce qu'ils voient ça un peu comme une forme d'infidélité légale.
Mais dans les faits, c'est pas... Ils finissent par se pogner à un mur.
Mais oui, parce que c'est pas comme, fait
naturellement. À la limite, c'est comme... Les personnes polyamoureuses, on le sait, là, c'est pas notre premier rodéo. Là. On commence à le savoir, les signes des personnes qui sont pas là pour les bonnes raisons.
Mm-hmm.
Comme moi, j'ai un ami qui, à chaque fois qu'il tourne célibataire, il commence à se questionner sur le polyamour.
Et boy, oui.
Mais là, je sais que ça, il s'en va pas là-dedans. Mais comme il est comme... il y a comme la perception que les femmes polyamoureuses sont plus faciles. Mais dans les faits, c'est pas vraiment vrai.
Non, faut qu'il y ait une connexion quand même.
Dans les faits, il y a des femmes qui polyamoureuses qui vont juste refuser de baiser à la première date. Là. Et ils vont avoir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Avant, c'est ça, ça change pas ce que t'es au fond de toi. J'ai aimé le terme buffet. Est-ce que c'est un buffet à ce point-là? Les gens qui auraient l'idée de le polyamour,
mais
c'est...
Mais pas du tout!
Je peux côtoyer puis convoiter 7, 5 personnes en même temps.
Le seul buffet qui existe, c'est au niveau de comment on forme notre relation.
OK.
Je vous ai donné une feuille, là.
Oui.
Puis, en fait, la feuille, là, ça s'appelle le smorgasbord.
Il y a encore plein de choses, ouais, mon Dieu, que je voulais qu'on aborde.
Mais c'est ça, le smorgasbord. Puis ça, oui. C'est un buffet, finalement, de choses qu'on peut choisir dans les différentes relations qu'on a. On n'a pas l'embarras du choix des partenaires, mais on a l'embarras du choix de comment on veut être avec nos partenaires.
Ça peut être un buffet émotif, à quelque part.
C'est ça.
Mais tu sais, quelqu'un qui veut se lancer là-dedans et s'imaginer qu'il peut avoir plein de partenaires dans le but d'avoir plein de relations sexuelles et tout, mettons, là, il tourspine dans un club libertin. Là.
Oui, à ce moment-là, oui. Tu sais, je veux dire,
ça prend de l'énergie, du temps, une volonté d'investissement quand même, là, quand tu veux développer des relations polyamoureuses.
Le polyamour, c'est pas pour la personne qui est rapide dans le temps.
Non, c'est ça.
Le libertinage, ça va être beaucoup mieux.
Exact.
Le club de sexe aussi.
Oui. Okay. Donc, ça ici, c'est un outil que tu nous as remis,
oui.
Que tu donnes dans tes ateliers, Poly 101.
Exact.
Qui sont, comment est-ce qu'on peut s'inscrire à tes ateliers?
En fait, aujourd'hui, on a fait la page Facebook du Poly 101 pour que les dates soient, pour que ce soit séparé du groupe un petit peu. C'est publié sur le groupe, mais maintenant, on a aussi notre page Facebook qui, on va mettre les dates, les prochaines dates, puis où elles vont être. Puis, c'est ça, on compte en faire un autre mi-avril, en fait.
OK. Ouais,
on en a fait un il y a 2 semaines.
Oui.
Ouais, c'est ça, il y a 2 semaines, puis on va en faire un autre à la mi-avril. Puis c'est ça, on a vraiment hâte.
À quoi on peut s'attendre d'assister à ces ateliers-là? Quelqu'un qui comme moi, là, totalement nouvelle, qui...
Oui. C'est un intérêt, là, quand
le
même,
le Poly 101 a de la valeur. L'information qui est discutée a de la valeur et pour les personnes monogames et pour les personnes non monogames.
Oh!
L'information, tout le début de la rencontre, comme la formation, c'est sur la communication, le consentement, l'autonomie, l'importance de penser à soi et de penser à l'impact qu'on a sur les autres.
Oui.
Comme il y a moi, tout, c'est... Là. Ouais, c'est ça.
C'est vraiment le bout qui m'a, qui m'a atteint le plus positivement. Mm-hmm. Le fait de dire, OK, faut que tu te connaisses pour embarquer dans quelque chose comme ça. Là. Parce que si tu t'en vas là-dedans, là, les yeux fermés, les œillères, let's go, on fonce comme un cheval. La guette à part, puis on s'en va. Là.
OK.
Ça ira pas bien, puis tu vas te planter.
La formation, c'est vraiment...
C'est sur une durée de combien de temps?
La formation, la partie théorique est de 1 heure. Des fois plus, parce que des fois, on languit un petit peu.
En présentiel?
Présentiel. Okay. On préfère le présentiel parce que comme ça, on a la dernière heure qui est réservée à la discussion. La dernière heure, slash un peu plus des fois.
Vous êtes sociopopée.
Oui, c'est ça.
C'est correct.
Puis la dernière heure est réservée à la discussion parce qu'en polyamour, comme on n'est pas un monolithe. Les personnes, on est en avant, puis on présente la théorie, mais on ne présente pas la façon d'être polyamoureux. On essaie de donner des outils aux gens pour qu'ils puissent se connaître puis qu'ils puissent savoir qu'est-ce qu'ils veulent avoir, finalement.
Vivre.
Okay. Ouais. Fait que, comme, on donne des outils pour que les gens puissent s'y aventurer sans nécessairement avoir besoin de se brûler autant. S'ils décident de mettre leurs mains dans le feu, pareil, c'est à eux, puis c'est correct. Fait que, c'est vraiment juste ça. On donne des outils, les gens en font ce qu'ils veulent.
Puis, avant la pause, on parlait du Don't Ask Don't Tell. Ça, c'est Don't Tell, Don't Ask. Okay.
En fait,
peux-tu le dire comme il faut?
En fait, il y a différentes configurations relationnelles. Ça, en gros, c'est la façon que les relations sont construites. Il y a la méthode très populaire, surtout pour les couples qui commencent, qui est le Don't Ask, Don't Tell.
C'est ça, ça, c'est le bon terme, je le dis à l'envers.
On demande pas, on dit pas. Mais le problème avec ça, c'est que c'est très nébuleux. Ça fait qu'on ne sait pas grand-chose, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut dire, puis qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. C'est nébuleux, c'est pas flexible, puis c'est pas adapté à la vie.
On n'est pas encore dans le confort, là.
Mais non, c'est pas vécu ça. C'est délicat parce que, hey, vendredi soir, t'attends-tu qu'on aille à telle place? Moi, je veux pas savoir. Non, là, bon, on se le dit pas.
T'es pas bien.
Finalement, non, je pourrais pas. Ah, ce serait vraiment le fun, puis non, je pourrais pas. Mais pourquoi? Mais, ça devient hyper malaisant.
Ouais. Mais il y a une alternative qui est super facile à intégrer, qui s'appelle finalement la relation parallèle. Puis en gros, parallèle, des lignes qui sont côte à côte, qu'on touche pas, qui se touchent pas. Puis ça, en gros, ça permet qu'il y ait davantage de communication. Puis on peut s'entendre sur à quel point il y a de la communication. Genre, je veux pas savoir c'est quoi ta vie amoureuse, mais j'aimerais ça savoir t'es où en fin de semaine. Que les gens, ils peuvent communiquer de façon plus ouverte. Ils savent que l'autre personne existe, mais ils leur parlent pas. Puis c'est beaucoup plus flexible aussi, parce que, mettons, c'est la fête de ton amoureux. Tu veux qu'il soit entouré des gens qui t'aiment, qui aiment. Fait que, genre, des fois, tu peux être en relation avec ta méta pour des événements très spécifiques. Fait que le parallèle, ça permet une plus grande flexibilité. Puis là, la plupart des relations vont être parallèles, mais des fois, les parallèles, ils se rapprochent un petit peu. Puis là, on arrive dans quelque chose qu'on appelle le kitchen table polyamory. Puis en gros, ça, c'est des gens qui rentrent, qui sortent, qui peuvent parler ensemble, qui traînent ensemble. Souvent, c'est l'idée qu'on se fait de genre le groupe de jeux de société, mais ouais, que ça fait ça. Qu'ils baissent tout ensemble aussi. Genre.
Mais ça, on voit ça de plus en plus chez les millennials, je pense.
Puis les soupers de couple, entre guillemets, de là, pourquoi on utilise la table de cuisine comme image.
Oui, c'est ça, la table de cuisine. Puis pas juste de couple, genre, mettons, la fille qui arrive, qui vient voir son chum, qui dit salut à sa méta, qui sont comme, ah oh, oui, salut, comment ça va? Comment t'es ta job? T'as-tu eu ta promotion, finalement? Puis des trucs comme ça, là.
Sur le groupe polyamour, oui. Pour lequel je suis complètement vendue, j'ai vu à un certain moment une femme qui disait « Bon, je vais rencontrer la méta de mon amoureux. Qu'est-ce que je devrais... quelles questions je devrais poser? » Elle était hyper insécure par rapport à tout ça. Mais il y a gens qui, lorsque quelqu'un rencontre un autre partenaire, ils prévoient une rencontre ensemble.
Oui. Moi, j'adore les méta. Le polyamour, à la limite, là, ça... J'aime ça parce que ça me permet de ne pas avoir besoin de faire d'efforts pour rencontrer des nouveaux amis. Parce que genre, on se dit que les partenaires, ils ont souvent un genre, puis ils aiment cette personne-là pour une raison. Fait que ça arrive souvent que cette personne-là, je m'entends quasiment mieux avec qu'avec mon partenaire. C'est ça, c'est comme d'ailleurs la personne avec qui j'ai fait la formation, Poly 101, on était méta avant. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
Wow.
Puis je sais pas, on se trouvait tellement hot que, genre, on est devenus amis, puis comme notre amitié s'est développée de ça, là. Puis comme, maintenant, ça n'a pas rapport avec le partenaire. On l'a les deux laissé. Fait que, mais comme, on est encore amis. Puis,
génial.
C'est ça, les méta.
Et les connexions.
Oui, c'est ça.
Puis, OK, fait que pour le cours, parce que là, on va devoir déjà terminer, ça passe à la vitesse de l'éclair. Encore une fois, pour s'inscrire au cours, combien peut coûter un atelier comme ça?
La plupart du temps, c'est 5 $ plus les frais de Eventbrite. Fait que, pardonnez le nom du diable, ça donne 6,66 $.
C'est du bénévolat ou presque.
Okay. Oui, non, nous autres, on ne se fait pas payer. Vraiment... On fait ça bénévolement.
Wow. OK, super. Et ça se déroule à quel endroit?
Ça dépend, en fait. Jusqu'à maintenant, on était avec le laboratoire alternatif communautaire.
Oui, OK.
Puis ça se peut qu'on change d'endroit. Ça va être, ça va être publicisé avec chacun des trucs. Okay. Ça va se passer via Eventbrite pour les billets.
OK, peut-être renommer la page Facebook?
Oui, vous pouvez aller sur le groupe Polyamour Ville de Québec. Si vous êtes intéressé par le polyamour puis tout ça. Sinon, vous pouvez aussi aller sur la page Facebook du Poly 101 si vous voulez juste satisfaire votre curiosité. Puis il va y avoir les dates des prochaines formations là-dessus.
Jack et Dakota, un immense merci d'être venus nous expliquer tout ça. Enfin, on a pu décortiquer. On aurait pu continuer encore une heure, il va falloir vous réinviter.
Effectivement, c'est merci. Toujours ça, c'est le temps qui nous empêche d'aller plus en profondeur. Beaucoup de curieuses, je mets ça au féminin sur le Facebook Live ce soir, ça va être disponible en rediffusion au www.radiox.com. Merci d'être là, aussi aux auditeurs et au nom de nos invités en studio. C'est un vendredi soir, vous êtes toutes oui pour nous et j'espère qu'en fin de semaine, vous allez en profiter puis que vous allez avoir pris des notes de notre discussion. Bon week-end, Mel.
Bon week-end. Merci.
Merci. Au revoir.
Bye-bye.